بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، notre thème inshallah aujourd'hui il est un petit peu spécial et compliqué. On va parler aujourd'hui d'un ennemi déclaré, un grand ennemi qui nous combat depuis très longtemps, qui a mangé beaucoup de gens de notre communauté, sauf certains, qui sont encore attachés à l'Iman Billah ou à Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais hélas, comme l'a dit l'Imam Shafi'i, il a dit chaque être humain a quatre ennemis. Le premier ennemi, c'est le shaitan. Le deuxième, c'est ce bas monde, dunya. Le troisième, c'est ton nefs. Et le quatrième, c'est tes passions et tes envies. Nous, aujourd'hui, on va traiter ce deuxième. Le deuxième ennemi qui nous a tous tués. Et là, je suis obligé de le dire comme ça. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais essayer de te détacher de ce bas monde. On va donc parler, comme vous avez compris, de quoi ? De la dunya. On va essayer donc de te détacher de ce bas monde et de te rappeler de l'au-delà. Je suis navré de vous rappeler et de vous dire que la plupart des gens que l'on fréquente, la seule chose qui vous rappelle, c'est ce bas monde-là. Tous ceux qu'on fréquente et qu'on connaît, ils vont te parler aujourd'hui de business, d'argent, d'études, de voitures, d'immeubles, de femmes, de sorties, de mode, de parcs d'attractions, tout ça. Mais peu de gens qu'on fréquente et qu'on connaît vont nous rappeler l'akhira, l'au-delà, qui est la chose demandée. Et c'est le principal but de chaque musulman, d'atteindre là-bas, de préparer pour là-bas. Pas ici. Vrai ou faux ? Ou il y a un doute dessus ? Quelqu'un il va vivre éternellement ici ? Allah Ta'ala il a dit au prophète sallam, afa'in mit, fahum al-khalidun. Est-ce que tu crois que si tu meurs, eux ils vont rester éternels sur cette dunya ? On va tous mourir. Kullu ma 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur cette terre doit périr. Tout va disparaître. Et seul subsistera la face de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais essayer, avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de vous montrer ce que vaut vraiment cette vie présente, cette dunya. فأسأل الله subhanahu wa ta'ala أن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها تحت أقدامنا. اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا آمين آمين آمين. Ce thème est très très important, frère. Wallahi, tu sais, tu as dû l'entendre une fois, deux fois, trois fois, dix fois, mais il faut qu'on te le rappelle et qu'on te le répète. Ce thème, il est très très important et je l'ai divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est des questions qu'on va tous se poser. La deuxième, c'est comment Allah Ta'ala nous a décrit ce bas monde. La troisième, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit. La quatrième, des histoires de nos pieux et leur comportement, comment ils agissaient dans ce bas monde. Et la cinquième, le remède, comment faire pour sortir la dunya du cœur. Donc on va commencer directement avec la question. La première question que j'ai à poser, qu'est-ce que tu ferais si tu mourais demain? Si on te dit demain, c'est ta fin. Ibrahim, il sait que demain à 14h, il est dans l'autre monde. Il sera en train d'être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que Shérif, ainsi que moi, ainsi que tous les frères. Qu'est-ce que tu ferais si on te dit demain tu meurs? Tu le sais. Dis-moi comment tu vas passer ce temps. Je sais avec certitude que je vais entendre, moi, je ne sors pas de la mosquée jusqu'à ce que je meure. Le deuxième, il va me dire, quant à moi, je vais lire du Coran jusqu'à ce que je meure. Le troisième, il va me dire, quant à moi, je vais prier, prier, jusqu'à ce que mon âme sorte de mon corps. Quatrième, il va dire, moi, je vais dépenser tous mes biens, fils Abilillah. Cinquième, il va dire, moi, Je vais arrêter le haram et je vais évoquer Allah en permanence jusqu'à ma mort. Zikr. Je ne vais pas lâcher le zikr jusqu'à ma mort. C'est ce que je vais entendre ou ce que je ne vais pas entendre? Je vais peut-être entendre plus que ça. Il faut savoir les faire que, subhanallah, il y a une personne qui va me dire, moi, ce qui me concerne, je vais corriger mes injustices, tout ça. Donc avec certitude, tu sais que demain, si tu vas mourir, tu vas faire quoi? Tu vas te préparer. C'est vrai ou pas? C'est comme un examen. Demain, j'ai le bac. Demain, j'ai le brevet. Demain, j'ai tel truc. Je me prépare. La nuit, je peux ne pas dormir. Je peux ne pas manger. Je peux être très très mal. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que je réussis cet examen. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour le plus grand examen. Il y a un examen que beaucoup de gens oublient. Et là, Allah al-Azim, il rafle l'insouciance à tuer beaucoup de notre communauté. On parlait avec un frère il n'y a pas longtemps. Les frères aujourd'hui, si tu ne l'appelles pas pour venir à la mosquée, il ne vient pas. Mais ce même frère-là, sans l'appeler pour aller au cinéma, tu vas te trouver là-bas. Sans l'appeler pour aller dans un concert ou dans un spectacle ou dans n'importe quoi, tu le trouves. Mais quand il s'agit de la mosquée, bon écoute, je vais venir pour te faire plaisir cette fois, mais la prochaine s'il te plaît, hein. C'est pas tout le temps quoi, laisse-nous vivre, on est encore jeunes, on est en France, on a la pêche, on a la forme, on a l'argent. Hein? Comme mon père, 30-35 ans, je commence à le repentir et je me mets dans le droit chemin. Subhanallah. T'as garanti de vivre jusqu'à cet âge-là? T'as signé un contrat avec l'ange de la mort, tu lui as dit, avant 35 ans, tu viens pas me voir? Avec certitude, on va tous se détacher de la junior. Les compagnons du prophète, ils mettaient tellement la mort devant leurs yeux que leur comportement, c'est le comportement exemplaire quand on lit leurs histoires. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est que nous, on a espoir de vivre longtemps. Et on oublie la mort. Et à chaque fois qu'on nous le rappelle, ça nous fait du bien, ça nous fait changer quelques temps, mais dès qu'on ne le rappelle plus, qu'est-ce qui se passe? Ah, vas-y, c'est bon. Inch'Allah, moi je vais bien. Vous savez, Allah Ta'ala a dit dans un hadith, لا أجمع في قلب عبدي أمنين وخوفين. Dans le cœur de chaque être humain, Allah Ta'ala ne regroupe pas deux quiétudes et deux peurs. Ces deux quiétudes, c'est quoi? Allah Ta'ala dit إن خافني في الدنيا. Qu'est-ce qui se passe? آمنته في الآخرة. S'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. وإن آمنني إن آمنني في الدنيا. Qu'est-ce qui se passe? Si tu te sens en sécurité dans ce bas monde et que tu te dis Alhamdulillah, pour moi le paradis, les portes du repentir et des hasanettes elles sont ouvertes, sache que le jour du jugement t'auras peur. Donc à toi de choisir maintenant. Tu veux vivre en ayant peur d'aller en enfer et d'être châtié toute ta vie et à la fin trouver une bonne demeure auprès de ton Seigneur, ou tu préfères être en sécurité et vivre ta vie et suivre les gens qui veulent quoi? T'attirer vers les passions. Allah Ta'ala il dit والله يريد أن يتوب عليكم. Allah il veut vous pardonner. ويريد الذين يتبعون الشهوات. Et les gens qui veulent suivre leur passion, ils veulent quoi? Que vous penchez un tamil ou bien un, que vous penchez vers leur chemin. C'est ça. C'est soit tu seras dans un chemin droit jusqu'à ta mort et tu vas comprendre ce bas monde bien comme il faut et savoir qu'il n'a aucune valeur aux yeux d'Allah et du prophète sallam et des pieux. Soit tu vas suivre ce bas monde, tu vas courir derrière. Tu vas tout faire pour ce bas monde et à la fin, ni le bas monde, ni l'au-delà. Parce qu'Allah, il ne peut pas te donner ça. Il ne peut pas. La deuxième question, c'est, imagine que tu es chez toi, sur ton lit, et que l'ange de la mort vient prendre ton âme. Je suis allongé, et l'ange de la mort, il rentre. Et il vient, il dit, c'est ton heure, c'est maintenant que je vais prendre ton âme. C'est quoi ce que tu vas souhaiter à ce moment-là? Tu vas souhaiter quoi? Une deuxième chance. Laisse-moi un délai. Voilà. J'ai tel château, tel palais, tel pavillon, telle voiture. Prends tout et laisse-moi 5 minutes. Dans ces 5 minutes-là, je vais faire maximum de hasanat parce que je sais comment il faut faire les hasanat. On m'a déjà dit que lire le Coran, ça ramène des hasanat. Faire du dhikr, ça ramène des hasanat. L'istighfar, ça ramène des hasanat. Al-tahlil, al-takbir, al-tasbih, al-salawat, al-tawba. Tout ça, ça ramène des hasanat. Laisse-moi 5 minutes. Et je te donne tout mon argent. Et l'ange de la mort. Il va l'accepter, ça? Allah Ta'ala il dit dans Sourate Al-Mu'minun, fil ayat 99, Hatta idha jaa ahaduhumul mawt, qala rabbi irji'un. C'est la phrase que tout le monde dit. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. C'est ça ce qu'il dit. Quand tu es en train de mourir et que tu sens que ça y est, l'âme elle part. Non, Laisse-moi revenir sur terre. Pourquoi? La'alli a'mal salihan fi ma tarakt. Afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. J'en ai délaissé des choses vers moi. Je savais que ça c'était obligatoire, ça c'était interdit. On m'a dit là, là, là. Chaque fois que j'ouvre la télé, il y a un cher qui en parle. Mon père, il me fait la morale, ma mère. Et malgré ça, ma tête, elle ne veut pas changer. Mes passions, shaitan, c'est eux mes guides. C'est eux. Allah, il a dit, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Il y a des gens, ils ont pris pour Dieu leur passion. Leur passion. Ce que mon cœur, il veut, allez hop, on y va. Et si la parole d'Allah et son messager, ils vont avec ma raison, avec mes passions, on les met en accord, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne me plaît pas, non, excuse-moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Pourquoi? Non, 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 ça c'est pas ça. Non, la religion d'Allah, elle est beaucoup plus simple que ça. La simplicité et la dureté de la religion, c'est pas toi qui la décide. Quand Allah et son messager décident une chose, toi, il ne t'appartient plus d'avoir le choix de décider ou pas. Ça, c'est obligatoire. Khalas, après mon salat, toi, tu zakat. Je dois faire la prière. Ouais, mais franchement, à chaque fois, il faut enlever les chaussettes pour faire les ablutions. C'est relou. Carrément, il se prend la tête sur les chaussettes. Ah non, je peux pas faire la prière pour toi parce que je suis sale. Qu'est-ce que tu appelles être sale? Bah, tu vois pas, j'ai de la poussière partout là, à cause du taf. Et alors? Et alors? Est-ce que c'est une najasa? C'est une impureté, la saleté? Il y a un hadith du prophète Hassan qui dit, celui qui est sale, il prie pas. Et on se trouve des prétextes bidons. La sœur, t'attends quoi pour le hijab, ma sœur? Ça fait combien d'années on t'en parle? Combien de fois on t'a dit le hijab de la femme musulmane, il doit couvrir cheveux, corps, partie intime, être ample, pas serré, pas décrire le corps, pas des couleurs bizarres, et malgré ça, ni tu veux porter le hijab, ni tu acceptes ces conditions, et tu nous dis, je suis pas convaincu. T'es pas convaincu de quoi? C'est un verset du Coran. Pourquoi t'es convaincu d'accomplir la prière et t'es pas convaincu de porter le hijab? Pourquoi ça bloque là ici? T'en as une autre, elle dit, moi franchement le hijab, je me sens pas libre, j'ai chaud. Le feu de l'enfer, il est plus chaud si tu désobéis à ton Seigneur. Wallahi, le feu de l'enfer, tu ne le supporteras pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, le feu qu'on a dans la dunya, ce n'est que 1 sur 70 du feu de l'enfer. Toi, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, t'accepterais de mettre une minute ton doigt sur une bougie? Une bougie. Tu mets ton doigt une minute. Non. Imagine tout ton corps dans un feu multiplié par 70 de celui de la dunya. Normal. Oui, je vais assumer, il n'y a pas de problème. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il va lui répondre à Allah? Kalla. Quand elle va demander à revenir sur terre pour œuvrer, il lui sera dit, Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Même la parole qui dit, c'est juste une parole. Celui qui dit, redonne-moi une deuxième chance pour que je revienne sur terre, et je ferai mieux dans ce que j'ai délaissé. C'est qu'une parole. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et cette barrière, c'est Alam al-Barzakh, le monde de la tombe. Beaucoup de gens ne croient pas au châtiment de la tombe. Beaucoup de gens disent que dans la tombe, il n'y a plus rien. C'est un noir, on reste dans le noir pendant je ne sais pas combien d'années, et après on est ressuscité le jour du jugement. Ta tombe, c'est la première station du jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà dit qu'il a entendu le bruit de gens qui se faisaient châtier dans la tombe. Il a dit quoi? Innahuma yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Il a dit, ces deux-là que je suis en train d'entendre tout de suite, ils sont en train d'être châtiés, et ils sont en train d'être châtiés dans quoi? Dans une chose qui est pas très grande, mais en vérité elle est grande. C'est quoi cette chose-là? Il y en a un parmi eux qui ne se nettoyait pas après l'urine, et dans une version, il se cachait pas pour faire son urine, et l'autre, il marchait dans la rue avec quoi? Ennamima. Ennamima, rapporter les paroles des gens. Wa alaykoum assalam, rapporter. Tu t'imagines? Et Allah Ta'ala nous l'a dit, que dans le Coran, c'est prouvé que dans la tombe, il y a déjà quelque chose. Allah Ta'ala, il a dit, wa yawma taqoumu sa'a, adkhilu ala fir'aun, ashadd al'adab. Le jour du jugement, faites rentrer Pharaon. Il a dit avant, juste avant, An-naru yu'radun 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. Juste avant, il dit que le feu de l'enfer, ils y seront le matin et le soir. Et le jour du jugement, faites entrer Pharaon dans le plus dur des châtiments. Donc ce feu-là qui est en train de goûter le matin et le soir, s'il n'est pas, c'est pas le jour du jugement. C'est quand? C'est dans la tombe. C'est dans la tombe. Déjà qu'il est en train de goûter Pharaon au feu, matin et soir. Et le jour du jugement, il goûtera au plus dur châtiment. Ça, c'est une preuve qu'il y a un châtiment dans la tombe. Un autre verset, dans Sourate Nuh, Allah dit, « Mimma khati'atihim ughriqu » Ils ont été tous noyés, le peuple de Nuh. « Ughriqu fa udkhilu nara » Ils sont directement partis en enfer. Dans quel enfer? Quel enfer? Le jour du jugement, il n'est pas encore arrivé. Le prophète s'en dit dans Sahih Muslim, « Udzibat imra fi hirra » Hein? Il a vu une femme se faire brûler en enfer pour un chat qu'elle a emprisonné, qu'elle a refusé de lui donner à manger et à boire. Où en enfer? Tout ça, c'est dans la tombe, c'est des preuves que dans la tombe, ça commence déjà. Je reprends donc ma première question. Si tu meurs demain, tu fais quoi? Harun al-Rashid, c'était un roi. Et un savant est venu le voir. Et il avait beaucoup de richesses, des palais. Hein? Ce que tu rêverais, toi, d'avoir. Des biens, tout ça. Et un savant, parmi ceux qui travaillaient chez lui, lui a dit, qu'est-ce que tu ferais si ce verre d'eau là que tu m'as demandé à boire, on t'en privait, et qu'il n'y a que ça à boire dans toute cette terre. Il a dit, je suis prêt à donner la moitié de mes biens pour boire ce verre d'eau. Il a dit, et si tu bois ce verre d'eau, et qu'après tu n'arrives pas à uriner, t'arrives plus, ça sort pas, tu ferais quoi pour faire sortir cette urine? Il a dit, l'autre moitié de mes biens. Il a dit, tout ce que tu as là, comme bien, ça vaut même pas un verre d'eau. Ça vaut même pas un verre d'eau. T'imagines un peu? Ça vaut pas un verre d'eau. Aussi, t'es devant un immeuble, écoute bien, t'es devant un immeuble qui est immense. Immense cet immeuble. C'est 40 étages. C'est juste devant, même pas 2 mètres. Tu le regardes, tu le vois comment? Très grand. C'est vrai ou pas? Ce même immeuble, si tu recules un petit peu de cet immeuble-là, de 1 km. Il rapetit de 10 km. Suppose que tu montes carrément sur une autre planète et tu regardes carrément toute cette dunya entière. La dunya entière, plus tu t'en éloignes, plus tu la vois comment? Petite. Plus tu t'éloignes des immeubles, plus tu la vois petite. Allah Ta'ala regarde cette dunya et tout ce qu'on voit nous, comme nous on est en train de décrire maintenant, comme une chose petite, qu'on ne doit pas lui donner valeur. Et là, Allah, tu vois les gens, comment ils sont. Dans un hadith, selon Amr ibn Awf al-Ansari, radiyallahu anhu, le prophète sallam envoyait une fois Abu Ubaida ibn al-Jarrah au Bahreïn pour lui rapporter leur impôt de capitation. Il a envoyé un compagnon pour ramener des impôts, de l'argent, d'accord? Les Ansar, les premiers habitants de Médine, apprirent le retour d'Abu Ubaida. Ils ont su que maintenant ils revenaient à Abu Ubaida avec quoi? De l'argent, des richesses, tout ça. Apprirent le retour d'Abu Ubaida, ils prirent part à la prière de l'aube avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous mis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quand le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, eut terminé sa prière, il s'en alla. Il est parti les laisser. Ils lui barrèrent alors le chemin. Il sourit en les voyant, puis leur dit, « Je crois que vous avez appris le retour d'Abu Ubaida, porteur de quelque chose du Bahreïn. » Ils dirent, « Oui, au messager de Dieu. » Ils lui ont fait un barrage parce que là, maintenant, l'argent est venu et on veut profiter. Il y a Rasulallah, maintenant, cet impôt, il faut qu'elle soit distribuée pour nous, les compagnons, et qu'on profite de cet argent. Le prophète, il a dit, je sais pourquoi vous êtes tous là, que vous savez qu'Abu Ubaïd est revenu avec l'argent. Il a dit, soyez contents et ayez bon espoir en ce qui va vous remplir de joie. Qu'est-ce qui va la remplir de joie? Le prophète, il leur dit après, subhanallah, par Dieu, ce n'est pas la pauvreté que je crains. Pour vous. Le prophète Hassan, il n'a pas peur que cette communauté-là soit des pauvres. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La pauvreté, alors, c'est quoi? Tu vas vivre combien d'années? Vivez tes 60-70 ans enfin pauvre. Le jour du jugement, tu rentres avant les riches de combien d'années? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Hassan? 500 ans. 500 ans, tu rentres avant les riches. Tu t'imagines comme récompense? Qu'est-ce que t'as? Je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde comme on l'a étendu sur vos prédécesseurs, puis vous vous querellez à cause de ce bas monde-là, alors à leur sujet, comme ils se sont querellés, et vous périrez comme ils ont péri. Le prophète Hassan, il a dit, moi j'ai peur de quoi? Pas de la pauvreté. J'ai peur que vous vous disputez pour cet argent-là, et qu'à la fin vous vous querellez, et vous vous disputez, et vous vous divisez. Il n'a pas eu peur de quoi? De la pauvreté. Mais il a peur de la richesse. La richesse, c'est à double tranchant. Soit ça t'amène bien dans la religion et t'es un soldat pour cet islam, soit tu perds ta religion et t'es un fruit pourri dans le panier des musulmans. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Maintenant, une chose à comprendre. c'est que là, notre thème, comme vous avez tous compris, c'est quoi? C'est ce bas monde et qu'est-ce qui vaut réellement. Ça, en bon français, c'est l'ascétisme. L'ascétisme, c'est le fait de se détacher du bas monde. Si on voit les définitions qu'ont donné nos pieux sur l'ascétisme, regarde un petit peu ce que dit l'imam Ahmed. L'ascétisme dans la vie présente est le fait de ne pas espérer vivre longtemps. C'est le fait que tu n'espères pas de vivre longtemps. Peu importe si je vive longtemps ou pas, de toute façon, l'essentiel c'est mes actes. Deuxième chose, Abdul Wahid ibn Zayd a dit, l'ascétisme est l'ascétisme dans les dinars et les dirhams. Le vrai ascétisme, c'est le fait de se détacher de ce bas monde-là. C'est de se détacher des dinars et des dirhams. On interrogea Al-Junayy sur l'ascétisme, il répondit, regardez la vie présente comme peu de choses et faire disparaître toutes ses empreintes du cœur. Subhanallah, t'as vu les définitions qu'il donnait? Faire disparaître toutes les empreintes de ce bas monde du cœur. Moi, j'aime énormément de choses dans la dunya. Eh bien, c'est trace là, il faut que ça passe. Faut que je comprenne que je suis en fait sur une terre où je sème des graines pour les retrouver dans l'au-delà. T'es en train de faire quoi là? T'es en train de mettre des graines dans cette dunya pour le jour du jugement, tu vois tout ce que t'as planté. Ensuite, on a Abu Sulayman al-Darini. Il a dit, l'ascétisme est le rejet de tout ce qui occupe l'esprit en dehors d'Allah. T'arrives à imaginer ça? Tu rejettes de ton cerveau tout ce qui occupe l'esprit. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit une définition, Allah, mashallah, vraiment cette définition-là, rien à dire. L'ascétisme est le délaissement de tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. Tout ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire, regarde ça dans ta vie, tu vois qu'il y a plein de choses qui ne sont pas utiles dans ta vie. Et l'abstinence est le délaissement de tout ce dont tu as peur comme mal dans l'au-delà. C'est que tu délaisses tout mal. Tu délaisses tout mal en pensant à l'au-delà et aussi tu délaisses tout ce qui n'est pas utile pour l'au-delà. Ibn al-Qayyim a beaucoup apprécié cette définition. Ibn al-Qayyim a dit, les gens du savoir sont unanimes sur le fait que l'ascétisme est le voyage du cœur de la demeure de la vie présente et son attachement à l'au-delà. Subhanallah. C'est que ton cœur, tu le fasses voyager à l'au-delà. Et toi, ton cœur, il est là. Nous, c'est le contraire. Nos cœurs, ils sont là. L'au-delà, on a coupé le voyage avec l'au-delà. Qu'est-ce que tu me parles de l'au-delà, mon frère? Il y a encore du chemin. C'est long, c'est loin. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? De plus en plus, on a des jeunes qui meurent, de votre âge, de notre âge, plus petits et un peu plus grands. À Drancy, ici, on a entendu il y a quelques mois, un jeune, il sortait pour aller faire du sport. Ils ont voulu prendre son portable, il a refusé, ils l'ont tué. Pour un portable. Peut-être vous avez entendu parler de cette histoire. Subhanallah, c'est devenu une chose que les gens n'y pensent même pas. Moi, la mort, non, c'est pas maintenant que tu racontes. Ah, tu parles d'un autre truc. Ensuite, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'on voie aussi qu'est-ce que l'ascétisme dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous a décrit c'est quoi exactement cette dunya. Comment on doit vivre dans cette dunya. C'est quoi sa réalité. Regardez Allah qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala. Il dit dans surat al-Hadid, i'lamu annama al-hayatu al-dunya, c'est quoi hayatu al-dunya, la'ibun wa lahw wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يقول sachez que la vie présente c'est quoi, n'est que jeu, amusement, vaine parure. C'est beau par les vêtements, c'est ça, jeu, amusement, des vêtements, une course à l'orgueil, subhanallah, entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Ouais, lui il a beaucoup d'argent, moi je vais en avoir plus que lui, et on, allez hop, rivalité. Il a un enfant, je vais en faire plus que lui. C'est ça la dunya, jeu, amusement, vêtements, orgueil, et rivalité dans l'argent et les enfants. Subhanallah. Et Allah, il dit quoi? Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit, dans sourate Ali Imran, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. الله تبارك وتعالى dit on a enjolivé, c'est des choses qui sont jolies dans la dunya aux gens, l'amour des choses qu'ils désirent. Qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Les femmes, enfants, trésors, l'argent. Thésaurisé d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Et après, il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Dans un autre verset, Allah ta'ala nous dit, dans sourate Shura, « Man kana yuridu harf al-akhirati, nazid lahu min harfi. » ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله dit quiconque désire labourer le champ de la vie future, écoute bien l'image, il désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Ça veut dire que si tu veux l'au-delà, Allah va tout te donner. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Et ça, ça fait peur. Qu'Allah Ta'ala te donne tout ici et que tu te sens le jour du jugement privé de tout. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. Wallahi al-Azim, t'imagines un peu, toute ma vie, je suis en train de courir vers tous les biens de ce bas monde et Allah, il m'a tout donné. Et à la fin, le jour du jugement, j'ai rien. C'est pas possible. Tu peux pas accepter ça. Ensuite, Allah continue dans le Coran à nous décrire cette dunya-là. Il dit « Qul mata'u dunya qalil » قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Dit la jouissance d'ici-bas est éphémère. Ici tu vas avoir des plaisirs mais ils sont éphémères. Ils brillent et ils partent un jour. Tu t'accroches à une fille dans le haram, tu restes avec elle un peu de temps, hop, ça disparaît. Tu t'accroches, parlez comme ça, tu t'accroches à de l'argent sale, un petit peu de temps, hop, ça disparaît. Tout ça, ça reste que éphémère et même les plaisirs qui sont dans le halal, ils sont éphémères, les frères. Tu vas tout laisser après ta mort. Mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous laissera pas, fût-ce d'un brin du noyau d'une date. Allah dit, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ça, c'est en ce qui concerne les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths, il y en a énormément. J'en ai sélectionné quelques-uns et regardez comment le prophète sallam voyait ce bas monde, comment il nous l'a décrit et surtout après, réveillez-vous bien quand on va entendre les histoires de nos pieux et leur relation avec ce bas monde. Le prophète sallam, il a dit à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma wa an jami' as-sahaba, le prophète sallam il a dit une fois à Abdullah ibn Omar en tenant son épaule, sois dans cette vie présente comme si tu étais un étranger ou un homme de passage. T'es un étranger ou un homme de passage à Marseille. Est-ce que tu vas penser à acheter beaucoup de choses? Toi, t'es parti à Marseille, t'es de passage, parce que tu vas aller après au Maroc, par exemple. Marseille, tu vas acheter quoi de là-bas? Rien, pourquoi? Je suis de passage. C'est pas ici, ma vraie demeure. C'est pas là où j'habite, vraiment. Ce bas monde-là, il est comme Marseille pour vous maintenant. Après avoir écouté ces paroles, vous devez le considérer comme ça. C'est-à-dire que tu dois te sentir comme un étranger de passage. Tu es ici pour une certaine petite période et un jour tu vas quitter tout ça pour ta vraie demeure qui est l'au-delà, le Jannah. Vous voulez rentrer au paradis ou quoi? Alhamdoulilah, tout le monde veut rentrer au paradis. Ça, il lui a dit, soit dans ce bas monde comme un étranger ou quoi? Ou un voyageur, quelqu'un de passage. Et il disait, Abdullah ibn Omar, il disait, إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظَرِ الْمَسَاءِ. Le matin, n'attends pas que vienne le soir, tu peux mourir. Et le soir, n'attends pas que vienne le matin. Et profite de ta santé pour ta maladie et de ta vie avant ta mort. Subhanallah, les paroles de nos pieux, Wallahi, c'est des rappels, mashallah. Ensuite, le prophète Hassan, il dit que cette vie-là, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Ce bas monde-là, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Tu vas me dire comment ça? Oui, c'est la prison, réellement. Quand tu commences à pratiquer ta religion, tu trouves qu'il y a certaines difficultés, ça fait partie de ton din, mais aussi des facilités. Tu vois, faut pas me dire que la religion c'est 100% difficile, pas du tout. Hein? Tu fais tout ce que les gens font, sauf que tu as des limites. Tu as certaines choses dont tu ne t'approches pas. Pour la sœur et pour le frère. Et le prophète Sam, il a dit, ce bas monde-là, en vérité, c'est la prison du croyant. Et Ibn Hajar al-Asqalani, c'était un grand savant, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari. Ce savant-là, il était d'origine égyptienne. Une fois, il était sur son cheval, il était très très bien habillé. Il était juge à l'époque. Et il passe à côté d'un mécréant qui lui dit, votre prophète, en fin de midi, votre prophète dit que cette vie, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Regarde, j'ai des mauvais vêtements, j'ai rien du tout comme bien, et toi, t'es un juge, t'es bien habillé, t'as un beau cheval, t'as une belle monture. Explique-moi un peu c'est quoi ce hadith-là. Elle est où la prison pour toi? C'est moi qui est en prison. Il lui a dit, regardez cette explication, subhanallah, ce bas monde-là est une prison pour moi comparé à ce qui m'attend le jour du jugement, et c'est un paradis pour toi comparé à ce qui t'attend le jour du jugement. Tu comprends? C'est une prison, vraiment. Si tu regardes les plaisirs là-bas, subhanallah, hey, c'est fini. C'est éternel, c'est, tu manges pas par faim, par plaisir. La nourriture, comment tu la digères? Elle sort de ton corps par une odeur de musc, parce que tu fais plus de besoin au paradis. Subhanallah. Au paradis, tu dors pas. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, "An-naum akhul maut wa la maut fi al-jannah." Le sommeil, c'est le frère de la mort. Et il n'y a plus de mort dans le paradis. C'est-à-dire que tu dors plus. Toute ta vie éternelle que tu verras au paradis, tu dors pas, tu n'es pas malade, tu ne vomis pas, tu ne fais pas tes besoins. Tu ne souffres pas ni de faim, ni de rien du tout. Plaisir éternel. Plaisir éternel. Ah bon? Hein? Le prophète en fait aussi dit, en montrant la bassesse de la vie présente par rapport à l'au-delà, et comme l'exemple d'une personne d'entre vous qui tremperait son doigt dans l'eau de la rivière. Imagine, tu es en train de tremper ton eau dans une rivière. Avec quoi tu vas revenir? Dans ton doigt, qu'est-ce qui te restera? Je reprends. Concentration. Tu as trempé ta main dans la rivière. Ton doigt, pardon. Et tu sors ton doigt. Qu'est-ce qu'il y a dans ton doigt? Quelques gouttes. C'est exactement cette image-là que le prophète sallam a dit au niveau de l'être humain et du bas monde. Ce bas monde-là, quoi que tu prennes, tu ne prendras même pas une goutte. Même pas une goutte. Quoi que tu prennes, quoi que tu aies comme bien, c'est une goutte. Hein? Écoute bien, la vie présente par rapport à l'au-delà est comme l'exemple d'une personne d'entre vous qui tremperait son doigt dans l'eau de la rivière. Qu'elle voit donc quelle quantité d'eau récupérera-t-elle, apportée par un muslim. Le prophète en salam dit aussi que m'importe de cette vie présente. Le rapport entre elle et moi, écoute bien, le prophète en salam est en train de décrire sa relation avec la dunya. Le rapport entre elle et moi est tel un cavalier qui s'endort sous l'ombre d'un arbre par un jour de très forte chaleur. Puis s'en va en la délaissant. Écoute bien, tu as dormi sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre, un jour, et tu t'es levé, tu l'as délaissé. C'est ça pour lui la donner. Tu vas la délaisser. Et très très important, les frères, que tout le temps, tu te remets en cause. Tu regardes dans la dunya, comment tu te comportes? Est-ce que tu es plus penchant vers ce bas monde, ou plus ton cœur il est attiré par l'au-delà? Si tu vois que ton cœur il est attaché à ce bas monde-là, écoute un peu ces hadiths, mon frère, j'espère que Allah va t'ouvrir le cœur et comprendre qu'il n'a aucune valeur, ce bas monde-là. Le prophète en salam dit, la vie est bien douce et bien tendre. C'est vrai ou pas? La vie, elle est douce, elle est tendre. Et Dieu, le Très-Haut, va vous en donner la lieutenance pour voir quel sera votre comportement. Allah, il vous donne tout ce que vous voulez dans la dunya pour voir à votre comportement, et après regardez qu'est-ce qu'il dit, prenez garde à ce bas monde et prenez garde aux femmes, rapporté par Muslim. T'as vu les deux dangers, les femmes et le bas monde. La femme, quand elle est pieuse, elle est dans le droit chemin, alhamdoulilah, et elle est bien pour elle et pour la communauté, elle pose pas de risque. Mais quand nos sœurs ils commencent à s'habiller comme on voit aujourd'hui, on se demande même si on devrait dire ils s'habillent. Moi j'appelle ça des filles qui oublient de s'habiller quand ils sortent. Elles oublient. Elles sortent, elles oublient de mettre quelque chose. Et quelque chose de très important qui couvre les parties honteuses, les parties intimes. Elles sortent comme ça, parfumée, maquillée, etc. Et après, elle s'étonne du viol, qu'on la drague, qu'on lui fasse des problèmes, qu'on l'insulte, qu'on la regarde mal, qu'on parle d'elle dans le quartier, qu'on dise que du mal sur sa famille. Pourquoi ? Mais c'est toi qui te l'as ramené, c'est toi qui as ramené tous ces problèmes vers toi. Habille-toi bien, t'inquiète pas que tu seras bien pour toi-même, comme je t'ai dit. Et en même temps, ta relation avec Dieu va faire en sorte que tout le monde sur terre va te respecter. Le prophète sallam dit aussi, selon Anas, dans le hadith que rapporte Bukhari et Muslim, « Seigneur Dieu, il n'y a de vie que celle de l'autre monde. » La vraie vie, les frères, wallahi, c'est là-bas. La vraie vie que l'on attend tous avec impatience, c'est là-bas. Et chaque jour qui passe, toi, t'es en train de faire quoi chaque jour ? Tu mets des graines dans la dunya. Tu mets des graines. Et le jour du jugement, tu vas voir. Et c'est une compétition, normalement, entre musulmans dans ces graines-là. Et tu vois, les musulmans, non ? Ils font des compétitions dans quoi ? Qui a la plus belle voiture ? T'as acheté quoi ? Moi, j'ai acheté un M3, Jean Talus, vite teinté, toute option, je sais pas quoi, il a un moteur, je sais pas quoi, c'est un année 2008, c'est un 6, un 6. Et après ? Est-ce que ça, c'est utile, ça ? On a dit tout à l'heure quoi ? Que le vrai ascétisme, c'est quoi ? C'est de te préoccuper de tout ce qui est utile pour le delà et délaisser tout ce qui est inutile pour le delà. C'est utile, franchement, d'avoir une M3 ? Celui qui a une M3 et celui qui a une Nevada. Le jour du jugement, ils sont pareils ou pas ? Allah, il va faire une différence entre celui qui avait une belle voiture et celui qui avait une mauvaise ? Inna Allah la yanzur ila siwarikum wa la ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos vêtements, mais regarde vos cœurs et vos actes. Ça, c'est très important à comprendre, les frères. Aujourd'hui, non. Moi, dans le quartier, il faut que je sois respecté. Comment, mon frère ? Il faut que j'achète une voiture. Wa alaykoum assalam wa barakatuh. D'accord, achète une voiture. Et il va prendre un crédit. Il ouvre une porte de haram. La deuxième porte de haram. La troisième porte de haram. Quatrième porte de haram. Après, il roule. Je ne peux pas rouler comme ça. Il faut que j'ai quelque chose à la main, quand même. Rouler comme ça, normal, une belle voiture. Non, il faut avoir le style. La cigarette. Et ça commence. Cigarette, puis après drogue, puis après ci, puis après ça. Une fille à côté de lui, et ça y est, il est noyé dans les péchés. Noyé. Tu ne peux rien faire pour lui. Tu le rappelles. Laisse tomber. Le ramadan, tu le vois au premier rang. Ah, mashallah, le ramadan, ça fait du bien. Voilà, je l'attendais ce mois. Mais de toute façon, c'est normal, tu l'attendais. Je sais pas, ils sont menottés, les portes de l'enfer, elles sont fermées. T'as pas le choix. Tu peux pas. À part si vraiment t'as pas de cœur. Parce que, wallah, il y a des gens, ils ont pas de cœur. Une fois, je parlais avec un frère. Je lui disais, hey, tout ça, essaye de délaisser ces filles-là. Ok, d'accord. L'adultère que t'es en train de commettre, tu vas rester comme étant 10 minutes. Dès que tu finis ça, sache que 1. Juste après l'avoir fait, tu regrettes et tu te sens pas bien. Et c'est un plaisir de quelques minutes. Dès que tu le finis, sache qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens de commettre un crime. Ou le jour du jugement, je ne sais pas comment tu vas pouvoir répondre à ça. Le jour du jugement, quand Allah ta'ala va te dire, je t'ai donné la santé, je t'ai donné ça et ça et ça et ça, et toi, ce que tu as fait en retour, c'est ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas lui répondre ? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, vas-y, il ne me parle même pas, mon cas, il est désespéré. La nuit du 27, j'étais avec une fille. Le 27 du mois du Ramadan, que certaines personnes disent que c'est la Laylatul Qadr, mais l'avis de la majorité, c'est que c'est un jour parmi les jours impairs et c'est pas la nuit du 27 spécial. Il était où ? En train de commettre l'adultère. C'est-à-dire, il y a des gens vraiment, tu vois, ils sont arrivés à un stade, mais on ne désespère pas quand même, hein ? Dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il est fort possible que cette personne-là, après plein d'années de péché, il se repente et devienne mieux que nous. Et c'est ce qu'on demande. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, trois choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe. Sa famille, sa fortune, et troisième chose, c'est quoi ? Ses actes. Deux choses parmi elles, retourne à la dunya et un reste avec toi dans ta tombe. Qu'est-ce qui reste ? Al-amal. Est-ce que la M3 elle va rester ? Est-ce que ton X5 va rester ? Est-ce que ta grosse moto, ton quad, ton ci, ton ça, tes jeans, tes parfums, tes montres, tes trucs, tes portables, ça va rester avec toi dans ta tombe ? Rien du tout. Si tu sais que tout ça, ça va pas rester, pourquoi tu leur donnes de l'importance ? Donne de l'importance à ce qui reste et ce qui dure. Subhanallah, on a combien de frères en France, même dans le monde, qui se prennent la tête sur le zikr dans la journée, à évoquer Allah Ta'ala tout le temps. Avoir la langue en permanence dans zikr tasbih. Je parle aux adultes, aux jeunes, aux petits, tout le monde. Ta langue, fais-la travailler tout le temps. Fais-la bouger. Abu Huraira radiallahu anhu, comme m'a rappelé un frère, 12 000 tasbih par jour. 12 000 tasbih. 12 000, ça veut dire 12 000 fois par jour, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Combien de fois par jour, toi? Le prophète, 100 fois par jour, il disait Astaghfirullah. 100 fois. Est-ce que toi, tu fais 100 fois par jour? Le prophète, il lui a été pardonné tous ses péchés et il lui a été promis le paradis. Nous, nous a été pardonné nos péchés, on nous a promis le paradis. On est loin du compte. On est vraiment loin et malgré ça, on ne veut pas lever la tête et sortir de cette noyade-là. Les gens, ils sont en train de tous se noyer et nous, on est dans leur bain. Et alors, mais ils sont tous comme ça. Allah il a dit, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu devais suivre tous les gens, la majorité des gens qui étaient sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc, ton exemple à suivre, c'est Allah et son prophète. Tu me dis, ouais, mais tu me demandes des choses que personne ne fait. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. C'est pas ça ta référence, mon frère. C'est pas ça ta référence. C'est pas les gens. Le jour du jugement, Allah il nous le décrit. Il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Ce jour-là, ni argent, ni enfant, ni famille vont te servir. Illa, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur propre, saint, un cœur nettoyé de péché. Illa man ata Allah biqalbin salim. Le prophète sallam dit aussi que le jour du jugement, subhanallah, c'est incroyable. Imagine-toi, t'as vu ce bas monde? Prends la personne qui s'est éclatée dans ce bas monde. Elle a fait tous les plaisirs qui existent. Tout. L'argent, c'est la plus riche. Maison, elle a eu les meilleures maisons qui existent dans cette dunya. Voiture, elle a eu une voiture. Quand tu la regardes dans la rue, tu dis, j'aimerais tellement qu'il m'écrase. Moi, la voiture, elle est belle. Si seulement je mourais en dessous de cette voiture, c'est une belle mort. Hein, comme disait Cherkesh qui disait quand il voyait une belle voiture, il disait, si seulement on mourait d'une belle voiture comme ça, mais c'était pour rire, bien sûr. Les meilleures morts, c'est quoi? Prier, hein, tu meurs en train de prier, en train de lire du Coran, comme Othman ibn Affan, etc. C'est ça, les vraies morts. Eh ben, tu ramènes la personne qui a eu le plus de plaisir dans ce monde-là, le jour du jugement, Allah Ta'ala, écoute bien, on le plongera une seule fois dans le feu. Celui qui a eu tous les plaisirs du moment. Fille, il avait les plus belles filles du monde. Argent, il avait de l'argent en lot. Il se mouchait avec des billets de 500 euros. Le jour du jugement, cette personne-là, il va être plongé dans le feu une seule fois. Et Allah, il va lui poser cette question. Écoutez bien, le hadith, il est rapporté par Muslim. Est-ce que tu as déjà vu un bien dans ta vie? هل رأيت نعيما قط فيقول لا يا رب الله. Non, Allah, par Dieu, j'ai jamais vu un seul bien de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a été plongé une seule fois en enfer, c'est tout. Une fois, il a été trempé. Il a oublié tous les plaisirs de ce bas monde. Il a tout oublié. Et on ramènera la personne qui a vécu la plus malheureuse dans ce bas monde-là. Et on la trempera une fois au paradis et on lui dira, est-ce que tu as vu un malheur dans ta vie? Il dira quoi? Wallah, j'ai jamais vu un malheur. Pourquoi? Juste d'être trempé une fois au paradis, t'oublies tout. T'oublies tout. Donc toi qui sais que ce paradis va te faire oublier toutes les misères que tu as vécues, toutes les mauvaises paroles que tu as entendues des gens, les mauvaises fréquentations, les insultes, les trucs, les machins, le boulot, la famille. Pourquoi tu fais pas pour l'au-delà juste pour être trempé? Pas pour être trempé, pour rester éternellement dedans. Nas'Allah an yaj'alana min ahli al-jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, regardez un peu, l'image de ce bas monde en comparaison de l'autre n'est que tel que celui, comme je répète le hadith, qui a plongé son doigt dans la mer, qu'il voit donc hein, ce qu'il retire de son doigt. Et une fois le prophète Hassan, il a traversé un marché. Ce hadith-là, il est rapporté par le musulman. Il traverse un marché et il voit dans ce marché-là, en passant, un chevreau mort. Un animal, une bête morte dans le marché. Ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Et ça, c'était un signe en fait qui faisait refuser les compagnons d'acheter de telles bêtes. Quand il avait un défaut, il ne l'achetait pas. Le prophète, quand il vient à côté de ce chevreau dans le marché, il est mort. Et il a un défaut, il dit, qui achète ça pour un dirham? Qui achète ça pour un dinar? Qui? Les compagnons du prophète, quand il me dit, Ya Rasulallah, il serait vivant, on ne l'aurait pas acheté. Parce qu'il a un défaut. Alors mort, à quoi donc me servirait-il? Après, il dit par Dieu, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Il dit, rien que ses oreilles, c'est une honte, on ne peut pas acheter une bête comme ça. Qu'est-il maintenant alors qu'il est mort? Il dit, par Dieu, ce bas monde est certainement plus misérable que ne l'est pour vous ce chevreau. Ce bas monde, il est plus misérable pardon, aux yeux de Dieu qu'il l'est pour vous ce chevreau dans ce bas monde. Subhanallah. Il n'a aucune valeur. Cette dunya-là, elle ne vaut même pas l'aile d'une mouche. Le prophète sallam dit, si ce bas monde valait l'aile d'une mouche, Allah n'aurait pas consenti un mécréant de boire une gorgée d'eau. Les mécréants, ils boivent de l'eau ou pas? Hein? Donc ça ne vaut même pas l'aile d'une mouche. Ce bas monde entier, il ne vaut pas l'aile d'une mouche. C'est incroyable quand même. Quand tu regardes aujourd'hui comment tu galères et ton père il galère pour avoir une maison. Oh là là, comment il se prend la tête. Je dois ramener plein de fiches de paye avec des fiches de paye élevées. Et après, je dois voir avec la banque. Et après, je dois voir ci. Et après, je dois voir ça. Et après, je paye un crédit de 20 ans pour une maison. Et après 20 ans, je ne sais même pas si je serai dedans. Peut-être c'est pour mes enfants, c'est même pas pour moi. Hmm? Comme un homme, il est parti en Arabie Saoudite. Il habitait déjà dans des pays du Cham, de la Grande Syrie. Et il voulait construire une maison pour la famille. C'est le rêve de tout le monde, avoir une maison. Wallah, la personne intelligente, elle cherche à construire là-bas. Ici, il n'y a aucune utilité. Aucune utilité. Parce que tu vas le laisser. Tu vas le laisser. Et sache que le problème de cette maison que tu veux construire ici, c'est qu'elle va t'occuper à l'adoration de Dieu. On voit la majorité des gens qui se dirigent vers ces biens de ce bas monde-là, ils délaissent la salate ou ils retardent. On va pas dire ils délaissent la salate, ils retardent la prière au maximum. Et quand ils prient avec fatigue et il n'est pas concentré. Ils prient, ils ont envie de finir vite. Parce que son corps, il n'est pas là. Son corps, il est dans la facture, la gestion, le stock. Comment je vais faire ça? Ah, mes ouvriers, lui, il est parti dans quel camion? Et dès qu'il rentre dans la prière, c'est des calculs mathématiques. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que le prophète, il a dit, « Les kulli ummatin fitna, wa fitnat ummati, al-mal. » Il a dit, « Chaque communauté a une tentation. Et la tentation de ma communauté, c'est dans l'argent. » Hélas, plus l'argent elle augmente chez les musulmans, plus on délaisse le droit chemin et plus on s'éloigne de Dieu. C'est ça c'est ça le réflexe d'un bon musulman? Normalement, ton argent l'augmente, qu'est-ce que tu fais? On investit dans des mosquées, on investit dans des écoles, pour les frères, pour les musulmans, hein? Des écoles pour apprendre le Coran, pour apprendre la religion. Non. Moi j'investis dans quoi? Une belle voiture. Hein? À part la voiture, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Il va s'acheter un bout de terrain dans Bled, il va le laisser 15 000 ans, il va ni le vendre, ni construire, ni faire de projet, et il a mis là-bas peut-être 2 millions d'euros. Mais ces 2 millions d'euros, fait les travailler, fait travailler les musulmans qui sont au chômage, qui volent, qui tendent la main. Hmm? Subhanallah, tu vas rien prendre avec toi. Ce bout de terrain-là, il y en a plein, des parents, des gens de famille, ils laissent beaucoup de biens à leurs enfants. Et il a pas pu en profiter. Pourquoi t'en profites pas en tant que vivant? Construis, tu veux un immeuble pour tes enfants, le rez-de-chaussée c'est une mosquée. Hein? Fais quelque chose pour ton dîme. Fais quelque chose, le jour du jugement tu dis, ya Allah, ce bas monde-là, j'ai pas fait que de ramasser de l'argent, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour ma communauté. J'ai fait ça pour la Ummah, je suis responsable, je sais que je suis responsable. Hein? Mais non, les plaisirs, shahawat, c'est tout. On est envahi, noyé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allahu musta'an. Il faut savoir que ce bas monde-là, il n'a absolument pas de valeur. Et le prophète, sallam, nous dit aussi, selon Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, il parla de ce que les gens reçurent des biens de ce bas monde. Il dit, j'ai vu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se tordre toute la journée de la faim, ne trouvant pas de quoi se remplir le ventre, pas même la plus basse quantité de dattes, rapportée par Muslim. Est-ce que tu arrives à imaginer que l'élu parmi les créatures, le prophète, la meilleure créature qui a été créée sur cette terre, elle ne trouvait pas des dattes à manger? Elle ne trouve pas des dattes à manger. Et si tu regardes dans quelles conditions il vivait, wallahi, c'est des conditions très très difficiles. Et malgré ça, ils ont fait quoi? Ils ont réussi à propager kalimat la ilaha illallah sur toute cette terre. Nous, avec tous les moyens qu'on a, on n'arrive même pas à nous entretenir nous-mêmes. On a besoin pour venir à la mosquée de 50 coups de fil. Hein? On a besoin pour venir à la mosquée qu'une personne te dise bah, « Vas-y, viens, on va au cours. »« Ouais, mais je suis fatigué, je rentre du foot. »« Ouais, mais laisse tomber, je vais venir à la mosquée. De toute façon, je connais tout ce qu'il dit, c'est pas nouveau. » Subhanallah. Ajib. Wallah al-Azim, on entend pire que ça. Là, je vous ai dit que des trucs gentils. Il y a des gens, Allah al-Musta'an. Et comme on parlait avec un frère tout à l'heure, il me dit, les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les suive, un suivi. Ils ont besoin tout le temps, on est derrière eux. Et les parents, ils le voient. Et les parents, ils nous demandent à nous, en tant que jeunes, d'aller voir les jeunes, de leur parler, tout ça. C'est vrai, c'est notre rôle. Mais le rôle des parents aussi, Allah ibarik fikum, c'est de nous aider à ramener les jeunes à la mosquée. Jeter toute la responsabilité sur les jeunes. On n'est pas des magiciens. On ne peut pas transformer les gens. Combien de parents, combien de mères me disent « Mon fils, il fait ça, mon fils, il fait ça, mon fils, il commence à fumer, mon fils, il regarde des choses sur Internet pas bien, mon fils, il appelle une fille au téléphone. » Et vous, le travail à la maison, c'est quoi? C'est de regarder vos enfants faire et dire à la mosquée, ils vont changer? Mais qui dit qu'il va venir à la mosquée? Hein? Et s'il vient, est-ce qu'il va venir par amour ou pas? Il y a un travail qui doit être fait à la maison et nous, on est prêts à aider. Et nous, on veut que aider. Hein? Ça, c'est notre principal rôle dans ce monde. Le prophète, à sa mort, il n'a rien laissé. Ni dinar, ni dirham, ni esclave, ni servante, ni rien d'autre. T'imagines? Prophète sallam, après sa mort, il n'a rien laissé. Hein? Ne serait-ce qu'une mule blanche qui lui servait de monture, ainsi que ses armes et quelques terres qu'il avait léguées aux étrangers de passage. Subhanallah. Le prophète sallam dit aussi, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, ce bas monde est maudit. Inna dunya mal'ouna. Mal'ounun ma fiha illa zikrillah wa man wala. Wa aliman aw muta'alliman. Il est rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah. Le prophète dit, ce bas monde, il est maudit, ainsi que tout ce que contient ce bas monde. Pourquoi? Parce que le bas monde, il fait pencher les cœurs vers les passions et pas à l'adoration d'Allah. La dunya, vraiment, elle a pris nos cœurs. Nos cœurs, aujourd'hui, ils pensent à quoi? Allez, ouvre le cerveau de tout le monde. Oh là là, demain, le travail. Oh là là, demain, mon patron, il veut ça. Oh là là, demain, il faut que j'achète ça. Oh là là, demain, comment je vais faire pour réparer ça? Bam. Est-ce que quelqu'un dit demain, inshallah, je vais me faire un programme de Qur'an, ça, zikr, ça, salat au maximum à la mosquée. La nuit, je vais faire ça. Je vais faire la dawa. Je vais écouter un cours. Je vais profiter. Je vais. Ce sont les jeunes qui font ça maintenant. Hein? Ils sont. Franchement, regardez la mosquée. Posez-vous la question. Ils sont où? Vous allez me dire en vacances? Wallah, il y en a beaucoup qui tiennent les murs dans les cités. Il y en a plein. Dans la cité, tu vas, tu peux remplir un mosquée tout de suite. Tu ramènes les gens, tu leur dis, venez goûter un peu des paroles qui vont vous profiter. Ouais, mais vas-y, laisse tomber, je suis seul. Tout le temps les mêmes phrases. Ouais, j'ai faim. Oh, mon père, il m'attend tout de suite. Oh, je sais pas quoi, ma mère. Moi. Les excuses, tu les trouves. Mais ce même-là, tu lui dis, il y a un nouveau pub là, qui a ouvert là. Hein? Une discothèque qui a ouvert là-bas. Ça te dit on y va? Ouais, mais ça coûte combien l'entrée? Non, t'inquiète, c'est pas cher, mais j'ai un piston, il va direct, tout ce qui est haram, on y va, on calcule même pas, on se prend même pas la tête. Il y a de la musique, il y a des filles, allez, vite, cours! Mais dès qu'il y a, parle Allah, parle à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vas-y, de toute façon, il y a les vieux qui vont à la mosquée, c'est bon, ça suffit déjà. Ils écoutent, nous, quand on sera vieux, on écoutera. Allah musta'an. Ce bas monde-là, il est maudit, et maudit tout ce qu'il contient, sauf, écoute bien, sauf quoi? L'évocation de Dieu, principalement la prière, puis ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant. Donc toi, pour t'éloigner de cette malédiction, tu dois te retrouver entre évocation, demande de science ou donneur de science. Sinon, c'est grave pour toi. Faut faire très très attention à ça, mes frères. Hein? Le prophète en salam aussi, il dit, deux loups affamés lâchés dans un troupeau ne sont guère plus dangereux que ne le sont pour vous, votre religion, pour votre religion, votre empressement derrière l'argent et les honneurs. Le fait de courir derrière l'argent et l'honneur, l'honneur, moi je suis fils d'un tel, hein? Moi je travaille dans tel truc, moi j'ai tel statut, bac plus 5, bac plus je sais pas combien, moi je suis ingénieur, c'est bien, mais c'est pas ça dont tu dois vraiment être fier. Ta fierté numéro 1, c'est ta religion. Et ton passeport numéro 1, c'est pas malien, sénégalais, marocain, égyptien, c'est musulman. C'est ça que tu dois présenter à tous tes frères et aimer tous tes frères sans exception. La farta bayna arabi wa ajami illa bittaqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Sauf, avec quoi? La piété. Hein? Inna akramakum indallah atqakum. Les plus nobles d'entre vous, c'est qui? C'est les plus pieux d'entre vous. C'est les plus pieux. faut essayer de corriger un peu ce qu'on a dans la tête là. Hein? Moi, pour avoir de la valeur, il faut que je pèse lourd par mon argent et mes connaissances, l'honneur. Non, le prophète me dit, pour votre religion, ce qui est plus dangereux, c'est pas deux loups qui vous poursuivent. C'est l'argent et l'honneur. Subhanallah. Aussi, on voit ici maintenant la partie qui concerne les histoires de nos pieux. Les histoires de nos pieux, dans leur comportement envers ce bas monde, leurs relations qu'ils avaient devant ce bas monde-là. Et il faut savoir, avant que je vous expose ces histoires-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne à une personne, c'est avec une hikmah, une sagesse. Et quand il prive une personne, c'est aussi avec une sagesse. Le prophète sallam dit, dans le hadith que rapporte à l'imam al-Bayhaqi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le hadith al-Qudusi, « Inna min ibadi » من لو أغنيته لأفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. Allah Ta'ala dit dans ce hadith là qu'il y a parmi ses serviteurs des gens que s'il leur donne des richesses, les richesses, qu'est-ce qu'elle va leur faire? Elle va les détruire complètement. لأفسده الغنى. C'est pour ça qu'il l'a laissé pauvre. Et d'autres, s'il leur donne la pauvreté va les détruire. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a une sagesse derrière toute chose. La personne peut se dire, mais pourquoi je vis dans ces conditions? Allahu ya'lamu anta la ta'lam ya akhi. Tu n'as que peu de science. Tu crois qu'Allah t'a donné quoi comme science? Allah t'a donné ça parce qu'il sait que sans ça, tu ne peux pas vivre bien, musulman. Et il t'a donné ça parce qu'il sait qu'avec ça, tu vas faire ça pour la religion et ça pour les musulmans. Donc, pose pas de questions dans le destin. Donc, pourquoi Allah il a fait, pourquoi Allah il n'a pas fait? Il dit, alhamdulillah ala kulli hal. Et un frère, il me disait, man qana'a shaba'a. C'est vrai, man qana'a shaba'a. Salam alaykoum. Quand on regarde Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, le prophète sallam, avant sa mort, il disait, iqtadaw billadhayni min ba'd. Prenez exemple sur les deux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar. Dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète sallam, il a dit, man ahabbu an-nas ilayk. Il a dit Aisha. Qila thumma man qala abuha. Tu vois que ce qu'il a mis en première position, après sa femme Aïcha, c'était Abu Bakr et Omar. Ils étaient tout le temps avec lui, dans toutes les choses. Jusqu'à même, ils sont enterrés à côté de lui à Médine. Subhanallah. Enfin, regarde Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum, comment ils se comportaient face à ce bas monde-là. Une fois, le prophète sallam, il appelle les croyants, les musulmans, à faire des aumônes. D'accord? À sortir des sadaqas. Omar ibn Khattab radiallahu anhu sort de chez lui avec la moitié de ses biens. Imagine-toi, t'es quelqu'un maintenant qui a de l'argent, tout ça, et on t'appelle à faire des aumônes, la moitié de tes biens, tu sors, tu dis, Ya Rasulallah, hadha lil muslimin, fi sabilillah. La moitié de tes biens, tu pourrais faire? C'est dur quand même. C'est vrai ou pas? Donc imagine-toi, on te demande la moitié de tes biens. C'est difficile quand même à sacrifier ce bilillah. Alors, il donne la moitié de ses biens au prophète sallam, puis juste après, rentre Abu Bakr, le siddiq radiallahu anhu, wa an jami' al-sahaba. Il rentre et il dit à Rasulallah, voilà tous mes biens qui se bilillah. Omar, il a donné quoi? La moitié. Abu Bakr, il donne tous ses biens qui se bilillah. Il lui dit, mais pour tes enfants, qu'est-ce que tu as laissé? Omar, il a dit qu'il a laissé l'autre moitié. Et toi, Abu Bakr, il a dit, j'ai laissé pour eux Allah et son prophète. Subhanallah. Ça s'appelle quoi? De la confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous, on a confiance en quoi? En l'euro, au dollar, aux cartes bancaires. C'est ça qui me fait vivre. C'est pas Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne. Hélas, on donne confiance aujourd'hui à des choses qui ne peuvent ni nous être utiles, ni nous causer du tort. Celui qui peut être utile et causer du tort, c'est qui? Je dirais qu'Abu Huraira, il a tout laissé pour le prophète sallam. Tout. Jusqu'au point où Aïcha radiallahu anha lui dit, tu connais des choses sur le prophète sallam que moi, sa propre femme, je ne connais pas. Comment ça se fait? Il lui a dit, toi, des fois, le miroir et le kohl, ils t'occupent, mais moi, rien ne m'occupe du prophète sallam. Toi, des fois, tu as du temps dans le maquillage, tout ça. Moi, j'ai pas de temps de perdu, que ce soit pour beauté ou maquillage ou rien. Et il a tout sacrifié. Il a même sacrifié de travailler. Et il était très 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 pauvre. On marchait des fois dans les rues de Médine et on le voyait par terre, hein, entre le mimbar du prophète sallam et sa maison, en train de crier, faire du bruit par terre. Et les gens, ils passent à côté de lui. Il lui dit non, Abu Huraira, il leur dit non, c'est pas ce que tu crois, je suis pas fou, c'est la fin. T'arrives à imaginer la fin, elle l'emmène à ce stade-là. Il arrive au stade où il crie et il a très 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 mal au ventre. Subhanallah, c'est pas peu quand même. Abu Huraira le même, il dit dans un hadith qu'à chaque fois qu'il voyait Abu Bakr ou Omar, il le suivait, il leur posait des questions dans la religion pour qu'il le suive, pour pouvoir marcher avec eux longtemps jusqu'à arriver chez eux. Et devant la porte, il lui dit, allez, rentre. On va manger un peu. Hein? Tu m'as dit, il nous posait des questions juste pour qu'on... Une fois, il voit Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il lui dit, tiens, Abu Bakr, aïe, fi kitabillah, un verset. Alors qu'il connaît très bien son explication. Mais c'est juste pour rentrer chez lui manger. Regarde, pour pas tendre sa main, comme il est intelligent. Un verset dans le livre d'Allah, je ne comprends pas. Et il commence à parler, il lui explique jusqu'à il arrive devant chez lui, Abu Bakr, il lui dit, voilà, Abu Huraira, salam alaykum wa rahmatullah, et ça part. Il se trouve dans la même galère. Un peu après, il voit Omar. Il dit, tiens, Omar ibn Khattab, allez hop, je vais le suivre. Omar, un verset, fi kitabillah, je ne comprends pas, explique-le-moi. Il lui explique, il arrive devant la porte, il rentre chez lui, il le laisse. Ensuite, le prophète, il passe, il lui dit, ya Rasulallah, un verset, il lui dit, viens, je sais ce que tu veux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il comprenait les compagnons, il les connaissait. Il a dit, viens. Dans la mosquée, il y avait un groupe qu'on appelait Ahl al-Sufa. C'était des pauvres, des mohajirines qui n'avaient pas de demeure, ils habitaient dans la mosquée. C'était un groupe, une centaine comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Abu Huraira dans quel état? Dur quand même, très très fin. Il a dit, viens, tu vois ce petit récipient de lait, prends-le et donne-le à Ahl al-Sufa qui boit, et à la fin tu bois. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que ce récipient de lait va faire devant ces centaines de personnes? Il a dit, va, écoute-moi. Et avec la baraka du prophète, ils ont tous bu. Après, il a pris le récipient, il a trouvé le récipient comme il était. Le prophète en a bu, puis après, il a dit à Abu Huraira, bois. Il a bu. Après, il a dit, bois. Il a bu. Il a dit, bois. Il a dit, wallahi, la ajid lahum matlak. Je ne trouve plus de place, je veux boire jusqu'à où, ya Rasulullah. Ça, subhanallah, il vivait dans une pauvreté, et malgré ça, Abu Huraira, vous savez, il a converti combien d'années avant la mort du prophète, sallam? Combien d'années? 4 ans avant sa mort. Et il en a rapporté combien de hadiths? 5300 et quelques. Alors que, subhanallah, toute sa vie, il n'était pas parmi les rapporteurs du hadith. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'est jamais trop tard pour une personne. Tu peux arriver très en retard dans ce train-là, mais rattraper beaucoup de gens. Faut pas te dire, ouais, le frère qui est devant, derrière, lui, il connaît l'arabe, il connaît le Coran, il connaît du fiqh, il connaît du hadith, il connaît. Ah, je suis trop loin. Il dit pas ça. Avance lentement, mais sûrement. Apprends bien. Et tu vas voir, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va t'ouvrir les portes du ilm, du risque, de tout ce que tu demandes. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, subhanallah. Avant sa mort, le hadith il est rapporté par Sheikh al-Albani dans Targhib al-Tarhib. Il était autour des compagnons. Et il dit aux compagnons, j'ai pas respecté les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Ils l'ont dit, c'est quoi ces recommandations, ya Salman? Il a dit, il nous a dit de vivre dans cette dunya avec peu de biens. Juste quelques biens qui nous permettent de voyager de pays en pays. Et j'ai rompu ce pacte. Les compagnons, ils sont étonnés. Parce que Salman, c'était quelqu'un de très très riche. On va le voir juste après. Après sa mort, ils vont compter chez lui combien il y avait d'argent et de biens. Ils trouvent une quinzaine de dinars. Et il dit avec ça qu'il n'a pas respecté la recommandation du prophète Salman. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Une quinzaine de dinars. Ou de dirham. Il dit qu'avec ça, il a rompu le pacte qu'il avait entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on a bien beaucoup plus que ça. Et chaque centime que tu gagnes, sache que tu auras deux questions jour du jugement sur ce centime-là. D'où tu l'as gagné et où tu l'as dépensé. Tu l'as gagné dans le halal. C'est bien. Tu l'as dépensé dans quoi? Cigarette. Ah, parce que c'est ma couche, c'est pas haram. Hein? Tu l'as dépensé dans quoi? J'ai dépensé dans la perte de temps. Et comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, la perte de temps est pire que la mort. Car la mort, Écoute bien. La perte de temps est pire que la mort. La mort, elle te coupe du monde et des êtres humains, mais la perte de temps te coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Perdre du temps, c'est pire que mourir. Et aujourd'hui, on a une maladie. Je reste avec des frères aujourd'hui, ils me disent « Wallahi, tu sais quoi, du matin au soir, je ne sais pas quoi faire. Je galère, je ne travaille pas, je ne fais rien. » Tu lui demandes, Talab Ilm, t'en es où ? Tu apprends un peu la science ? Tu fais quelque chose ? Tu te bouges ? Les lettres de l'alphabet, ils sont dans ta tête ou pas encore ? Ouais, mais t'as vu, c'est pas évident de trouver une motivation. Subhanallah, Allah Musta'an. On ne trouve pas de motivation pour apprendre l'arabe ? On ne trouve pas de motivation pour apprendre la religion ? Hein ? Mais on trouve de la motivation pour le fisc, pour le haram. Et on en est fier. Et on fait des compétitions entre nous. Qui va sortir avec plus de meufs ? Qui va avoir plus de haram ? Qui va fumer plus de joints ? Qui ce soir va avoir plus de bouteilles ? Hein ? C'est vrai ou pas ? Des concurrences pour le batil. Et quand il s'agit du vrai, quand il s'agit de venir à la mosquée pour écouter, comme on disait tout à l'heure, on a une rangée. Alhamdoulilah, c'est mieux que rien. Ils sont où ? Elle est où la communauté ? Elle est où ? Ils ne sont pas tous en vacances, il y en a encore ici. Mais non, hélas. Une fois aussi, Omar ibn Khattab, il arrive une fois dans la khutba de Jumu'ah en retard. Les compagnons, ils sont fâchés. Omar, il y a Amir al-Mu'minin. Même Bali, t'attends, comment ça se fait, t'es en retard ? Il leur dit, Wallahi, mon khamis est en train d'être cousu et je n'avais que celui-là à porter. Allahu Akbar. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, Omar ibn Khattab, il n'a qu'un seul khamis. Un seul. T'arrives à imaginer ? Une fois, Omar ibn Khattab, il a été blâmé. Ils l'ont dit, tout le temps tu manges du vinaigre, de l'huile, du pain sec, mange de la viande, mange des choses bien. Hein ? Et une fois, Omar ibn Khattab, avant de terminer cette histoire, il voit un compagnon qui passe avec de la viande. Il lui dit, pourquoi t'as de la viande ? Écoute ce qu'il lui dit, pourquoi t'as de la viande ? Il lui dit, ben, j'ai une envie. Il lui dit, awa kullama ishtahayt ishtarayt. Est-ce qu'à chaque fois que t'as une envie, t'achètes ? T'es comme ça ? Subhanallah, pose-toi cette question. Tu vas dire oui. La vérité, oui. Chaque fois que j'ai envie de quelque chose, je l'achète. Je flash sur des baskets, hop, tout de suite, les euros, ils sortent. Hein ? Je flash sur un portable, sur un MP3, sur un téléphone, sur n'importe quoi. À chaque fois que j'ai envie de quelque chose, je l'achète. Mon esprit, il est rempli de dunya. Décharge un peu, sans le faire. Chut, enlève la prise de la dunya et mets l'autre sur le de là un peu. Hein ? Décharge, subhanallah, on a besoin vraiment de décharger parce que c'est trop, wallah c'est trop. Tu restes avec des gens, la paye n'est pas encore tombée. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire avec la paye ? J'ai envie d'acheter un jean là. D'accord, s'arrête au jean, il n'y a pas de problème. Et une paire de baskets qui va avec. Parce que moi, avec le jean, il faut que j'achète les paires de baskets, même couleur, assorties. Sinon, ça sert à quoi ? Hein ? Et peut-être je vais acheter un pull pour faire un ensemble. Et tiens, d'ailleurs, si j'achetais une veste avec, parce que c'est un modèle classique, mais moi, j'ai pas de fille, il t'invente des films, mais chaque mois, il a des modèles classiques à acheter. Tu regardes son placard, il peut habiller la Palestine entière. Hein ? Et il est jamais satisfait. Jamais, il dit, Alhamdulillah, je suis arrivé à un truc qui est pas mal, tu vois. Un niveau de vie bien. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ils l'ont blâmé. Ils l'ont dit à Omar, arrête de manger ça et mange de la viande pour que tu sois plus fort dans tes da'wahs. Hein? Ça va t'aider à appeler au vrai. Il a dit, j'ai laissé Abu Bakr et le prophète sallam sur ce chemin-là. C'est ça qu'il mangeait. J'ai peur de prendre un autre chemin dans la nourriture et ne pas me retrouver avec eux dans le paradis. Subhanallah. Regarde, ils visent quoi Omar al-Khattab radiallahu anhu ? Ils visent le paradis avec eux. T'as déjà réfléchi toi une seule fois de dire, ouais, j'aimerais être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Anas, il a dit, Al-mar'u ma'a man ahabba. Chaque homme sera ressuscité avec celui qu'il aime. Taïmiki. Toi, frère, et toi, ma soeur. Taïmiki.
Moi, j'ai aimé Britney Spears.
T'as l'autre, il va dire, moi, j'ai aimé tel chanteur. Et t'as l'autre qui va dire, moi, j'ai aimé Zidane. Et l'autre qui va dire, Thuram. Et ben, tu seras avec eux le jour du jugement. C'est eux que t'aimes. C'est eux tes exemples. C'est eux que tu suis dans tout. Il met un piercing dans le nez, t'en fais un. Hein ? Il se coiffe les cheveux d'une manière... Un extraterrestre, allez hop, je fais zigzag, autoroute, hein, je fais tout pour être comme eux. Subhanallah. Et quand tu lui demandes, Yahri, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est où dans ta vie ? Elle est morte. Elle est inexistante même. On voit aussi, subhanallah, que Umayr ibn al-Hammam al-Ansari. Et cette histoire-là, elle est rapportée par Bukhari Muslim. Et cette histoire, elle est sur Ghazwat Badr, dans la bataille de Badr. Le prophète, sallam, il encourage les compagnons à quoi ? À se lever pour combattre. Il leur dit, Koumou, il a jannatan arduha samawati al-ard. Levez-vous pour un paradis plus large, plus vaste que les cieux et la terre. Allez ! Dès que tu entends cet appel, il y a le paradis, tu te lèves. Ils se sont tous levés et ce compagnon-là, Umayr ibn al-Hammam, il a dit, Jann arduha samawati al-ard. Après, le prophète sallam a dit, Naam. Il a dit, Bakhin, Bakhin. Il a dit, c'est magnifique, c'est trop bien. Il a dit, pourquoi tu as dit magnifique? Il a dit, non, c'est juste par espoir de faire partie des gens du paradis. Il lui a dit, sache que tu en fais partie des gens du paradis. Et dès qu'il a su ça, la bataille elle a commencé. Il a dit, avant de rentrer dans la bataille, qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger, il a dit, je vais manger un petit peu pour être fort. Quoi? Un crudité? Un grec? Regarde ce qu'il a mangé, des dattes. C'est ça qu'ils mangeaient les compagnons, des dattes. Il a sorti trois dattes, il a commencé à manger. Et dès qu'il l'a mis dans sa bouche, il a dit, mais attends, manger toutes ces dattes alors qu'il m'a été promis le paradis et que le paradis est devant moi, mais si je vis jusqu'à manger ces dattes, la vie elle est trop longue. Il a pris les dattes, il les a achetées. Il a dit, il n'a pas le temps, quelle date? C'est le paradis. Il jette les dattes et il rentre dans la bataille. Et ça a été le premier tué, le premier martyr de Ghazwat Badr. T'as vu leur vitesse vers l'au-delà, elle était comment? Toi, ta vitesse, elle est comment? Mais non, la vie elle est encore longue. Hein? C'est pas des dates que tu devrais jeter, toi. C'est plus que des dates. Wallah, tu devrais jeter tout ce qu'il y a dans ta cervelle. Tu prends, tu fais poubelle. Et tu commences à formater ce qu'il y a à l'intérieur, là. Wallah, il formate et installe des nouveaux logiciels, des nouveaux systèmes, parce que ça va pas. Ça va pas, on a été ensorcelés par cette dunya. Elle va nous emmener nulle part. Hein? Et des histoires comme ça, les frères. Allahu Akbar. Il y en a énormément. Vous avez aussi l'histoire de Khabbab ibn al-Arab, radiallahu anhu, il a dit, on est parti avec le prophète sallam, nous nous sommes exilés avec le prophète sallam à la recherche de la pleine satisfaction de Dieu le Très-Haut. Notre salaire, incomba donc à Dieu. On est sorti avec le prophète sallam, pourquoi? Pour rechercher, hein, la satisfaction d'Allah. Donc le salaire, il vient de qui? D'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi nous, il en est qui est mort, sans avoir rien à manger de son salaire, tel Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Allahu Akbar, son histoire, Mus'ab. Apprenez ces histoires au lieu de regarder la télé, regarder des trucs bidons dans les journaux, tout ça. Lisez les histoires des compagnons. C'est eux vos exemples. C'était des hommes, des vrais hommes. C'est pas aujourd'hui, nous, on a des hommes. C'est des faux. Hein? Mus'ab ibn Umayr, c'était le jeune le plus riche de Mecca. Il s'habillait de la meilleure manière. C'est-à-dire, tout ce que tu connais. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya marhaba. Mus'ab ibn Umayr, il mettait les plus beaux vêtements que tu connais. Tu sais quoi? Il marchait dans la rue, on sentait son parfum partout. Tellement il mettait les plus beaux parfums. Sa mère, elle était très très riche et elle l'entretenait, tu vois. C'était vraiment le beau gosse de la Mecque. Ce compagnon-là, quand il a su que le prophète Hassan, il appelait Allah, il est parti répondre à son appel, il a converti à l'islam et il a compris le message directement. Et ça a été le premier émir, hein, que le prophète a envoyé à Médine pour la da'wah. Ce compagnon-là, subhanallah, il a tout laissé pour Allah. Sa mère, l'a enfermé chez lui. Elle lui a dit, tu sors pas, parce que si tu sors, tu vas aller avec Muhammad. Il s'est enfui, il a laissé sa mère, il a tout laissé pour son islam. Et le jour de la bataille de Uhud, il est mort. Vous savez, quand ils sont venus pour l'enterrer, ce jeune qui était riche, beau, bien parfumé, qui était un exemple dans la mode, ce jeune-là, il n'avait quoi pour, il n'avait comme héritage qu'un manteau. Un manteau. Il a tout laissé pour Allah. Et quand il est mort, dans la bataille, ils ont pris son manteau pour le couvrir. Parce qu'un mort, on ne laisse pas comme ça, tu vois, dans la bataille. Alors à chaque fois qu'ils essayent de couvrir la partie du haut, ses pieds sont découverts. Ils essayent de couvrir en bas, en haut, c'est découvert. Donc le prophète leur dit, couvrez-lui son visage, plus important, et la partie du bas, prenez de l'herbe et des feuilles et couvrez-lui. Subhanallah, il n'avait même pas de vêtements pour se couvrir après sa mort. Vous imaginez? Son objectif, c'était quoi? Et la valeur de la dunya à ses yeux, elle était comment? Zéro. À chaque fois qu'ils essayaient de couvrir quelque chose se découvrait. Subhanallah. Et Ibn Abbas, radiallahu anhumain, Aussi, il dit qu'Omar ibn al-Khattab, il raconte. Wallahi, cette histoire aussi, oh là là, quand tu l'écoutes avec ton cœur, tu dis, mais subhanallah, mais je vis dans le luxe et je me plains. Il n'y en a pas un parmi nous qui ne se plaint pas. Ah, je vous le dis, il plaint. Sœur ou frère, ah, vas-y, ça va mal. Ah, laisse tomber, truc. Ah, la galère qu'il y a eu hier, demain, aujourd'hui, avec lui, un tel, ma mère, mon oncle, ma tante, mon travail, mes enfants, ma famille. Il y a une galère dans ta vie. Mais ça, c'est normal, t'es dans la dunya, t'es pas dans le paradis. Tu veux quoi, le paradis sur terre? C'est un danger si tu le veux. Parce que si tu veux le paradis sur terre, peut-être tu seras privé de ça là-bas. Tu peux vivre une bonne vie ici. Man amila amalan. Man amila amalan min dhakarin aw untha. Man amila amalan salihan min dhakarin aw untha, fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque fait un acte, un bon acte, pieux, qu'il soit homme ou femme, dans ce bas monde, Allah le fera vivre d'une bonne vie. Donc tu peux vivre cette bonne vie avec ton iman. Wallahi, avec ta foi, tu te sens bien partout. Partout, on te met n'importe où, tu te sens bien. Et c'est plus l'argent et les choses de ce bas monde qui te mettent bien. C'est les rappels d'Allah. C'est quand tu es à la mosquée, tu te sens très haut. Ce compagnon, il raconte, Omar ibn al-Khattab, qu'il est rentré une fois chez le prophète. Écoutez un peu. Écoutez, le prophète Hassan, sa maison, elle était comment? Beaucoup de gens se posent la question. Comment était la maison du prophète Hassan? Déjà, le prophète Hassan, il n'a jamais eu de construction solide. C'était de la paille, de la boue, hop, on en faisait une maison, la pluie elle tombe, la maison du prophète Hassan elle tombe. Et c'est reconstruit, et ainsi de suite. Il est mort sans avoir une construction solide. T'imagines? Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Il rentre chez le prophète Hassan, et il dit, j'ai entré chez le prophète Hassan. Et je l'ai trouvé étendu sur une nappe. Je m'assis et lui de se couvrir de son izar qu'il portait seulement. Vous savez c'est quoi l'izar? C'est la partie du bas qu'on met. Dans le hajj, on met deux parties de vêtements. On met une partie en bas qu'on appelle l'izar et une partie en haut qu'on appelle l'jedef. Le prophète sallam, il était allongé, torse nu, sur une nappe. Un tapis de paille. Et il avait ce izar en bas. Il n'avait rien en haut. Puis dès qu'il est rentré en mar, alors il a commencé à essayer de se couvrir. Après, il dit quoi? Il dit qu'il portait seulement. Je vis alors les traces de la natte dessinées sur son flanc. Il a vu sur son corps les traces de quoi? De la natte. Du tapis. Il lui a laissé énormément de traces. Je regardais dans la chambre du prophète sallam. Regardez qu'est-ce qu'il trouve dans la chambre du prophète sallam. Quoi? Un frigo? Un four? Un meuble, un lit, écoute, une poignée d'orge, et une autre poignée d'acacia blond, servant au tannage, pour tanner les peaux, ainsi qu'une peau suspendue qui n'a pas encore été tannée. À cette scène, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Oh, mais il voit ça, il voit qu'est-ce qu'il y a, une poignée d'orge. Et une poignée qui permet de tanner les bêtes, et une peau de bête. Il a pleuré. Avec les traces du tapis sur le dos du prophète sallam, il pleure. Il ne peut pas se retenir. Et le prophète sallam qui lui dit, pourquoi pleures-tu, Ibn al-Khattab? Pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui dit, ô prophète d'Allah, et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la natte sur ton flanc? Il a dit, Wallahi, ce belvédère qui ne contient presque rien. Cette maison qui contient rien. Tu n'as rien dans ta maison. T'imagines, il n'avait que ça. Quand je te dis que ça, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de placard, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas internet, il n'y a rien. Rien. Après, il lui dit quoi? Comment ne pas pleurer en comparant ta situation, toi, l'envoyé d'Allah et son élite, dans ta chambre, à celle de César et de Khosros, qui jouissent des fruits et des ruisseaux. Les rois de ton époque, comme César et autres, ils sont dans les lits, dans les grands palais, dans les ruisseaux, les fruits. Et toi, la meilleure créature du monde, tu dors dans cet état-là? Non, je ne peux pas accepter, je suis obligé de pleurer. Ça me fait de la peine. C'est pas possible que le prophète en femme, il soit dans cet état. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le prophète en femme? C'est là que c'est étonnant. Il lui a dit, Oh Omar, arrête un petit peu, Omar. Ne consens-tu pas que nous aurons la vie future et qu'ils ont, eux, ce bas monde? Si, je dis. Il a dit, tu veux pas qu'eux, ils aient ce bas monde et nous, le delà? Est-ce qu'on en a... à faire de ce bas monde Yarmouk. Ce bas monde, on va le quitter tôt ou tard. Une fois, le prophète, sallam, il rentre chez lui. Une femme parmi les Ansar, elle ramène à Aïcha, après avoir vu comment le prophète dormait, un lit, un très beau lit. Le prophète, il rentre, il dit, c'est quoi ça? Elle lui dit, c'est une femme parmi les Ansar qui est venue et elle l'a offert. Il lui a dit, rends-lui son lit. Rends-lui son lit. T'imagines? Toi, tu peux dormir, toi, par terre? Ça veut dire que le prophète, sallam, c'était pas sans son souci. Son souci, c'est qu'aujourd'hui, tu entends ce que je suis en train de dire. Que le message de l'islam, soyez présents sur cette terre jusqu'au jour du jugement. C'était ça qui est préoccupé. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de frères dans nos mosquées qui rappellent les frères. Des rappels partout. On a besoin que les gens se rappellent d'Allah. On disait la dernière fois que ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu, c'est dont tu parles. Regarde aujourd'hui, est-ce que tu parles beaucoup d'Allah ou pas? Si tu aimes beaucoup, beaucoup Allah, normalement, ça doit être ce que tu as dans la bouche toute la journée. Si tu aimes beaucoup ce bas monde, ben dans ta bouche, tu n'auras que ça. Qu'est-ce que tu as toi dans ta bouche? Chacun il regarde et il essaie de corriger ça. Et si tu ne corriges pas ça maintenant, c'est quand? T'attends quoi? La mort? Jusqu'à dire Rabbi Rji'un, Dieu fais-moi retourner sur terre? Aussi, An Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, il a dit: Ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayna Aba Ubaida. Le prophète a envoyé avec eux Abu Ubaida quand ils sont sortis pour attraper cette caravane-là, la caravane d'Abu Sufyan, à Badr. Et il regarde bien, il dit quoi? Wazawadna Jabran min Tamr. Jabir, il avait quoi comme provision avec eux? Des dattes. C'est ça qu'ils mangeaient, des dattes. Arrive à imaginer ça? Des dattes. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il disait Lam yajid lana ghayra. Il n'avait que des dattes et il ne trouvait rien d'autre à part ça. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. شكان لكمبانيو لديك من دات من دات. Écoute bien. فقيل له كيف كنتم تصنعون؟ Qu'est-ce que vous faites avec une date? Comment vous faites pour manger une seule date? Il lui dit, سبحان الله. كيف كنتم تصنعون؟ بها قال نمصها. Ce qu'on faisait avec la date, on suçait la date, comme suce l'enfant, la chose dans sa bouche. On suçait la date longtemps. ثم écoute bien. ثم نشرب عليها من الماء. Puis après on boit avec la date de l'eau. فتكفينا يومنا إلى الليل. Ça nous suffisait toute la journée jusqu'à la nuit. Une date qui suçait, compagnon, tout le trajet, et il boit une gorgée d'eau, ça suffit. Aujourd'hui, regarde ce qu'on mange, et ça suffit jamais. C'est vrai ou pas? Aussi, on a cette histoire aussi qui est impressionnante dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah. Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'une fois il y a une femme, elle est venue la voir, une pauvre. Écoutez bien, une femme pauvre, elle vient, elle dit à Aïcha, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à manger? Elle rentre dans la maison, elle fait le tour de la maison du prophète en salam, elle ressort avec quoi? Dites-moi avec quoi? Trois dates. La maison du prophète, elle n'avait que trois dates. T'arrives à imaginer ça? Trois dates. Trois dates. Tu manges ça comment dans Ramadan, toi, les dates? Allez, la soupe, la viande, le riz, les pâtes. Trois dates. Elle prend une date, elle la donne à la maman, et elle avait deux filles. Elle donne à une fille une date, et l'autre une date. D'accord? La maman, à peine elle met la date dans la bouche, que les deux filles avaient déjà mangé leur date et ils regardent la date à la maman. La maman regarde ça. Elle a fait quoi? Une mère. Qu'est-ce qu'elle fait logiquement? Elle a pris la date, elle a coupé en deux, elle a donné une moitié là, une moitié là. Subhanallah. Les mamans, wallah, ils nous ont fait du bien. Comme le disait Ibn Omar, il disait si tu portes ta mère sur tes épaules et que tu fais tawaf avec elle dans la Kaaba, peut-être que tu auras remboursé une contraction de grossesse. Une contraction. T'imagines? Ça dit rien, rien du tout. Quoi que tu fasses pour tes parents, tu n'auras rien rendu de tous les biens qu'ils ont fait. Ta mère, elle ne dormait pas pour que tu dormes. Elle ne mangeait pas pour que tu manges. Elle veillait la nuit pour que tu sois en bonne santé. Elle se privait de tout pour toi et au final, tu grandis, tu fais quoi? Vas-y, 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 tu comprends rien du tout. De toute façon, toutes les mamans du bled, ils sont pareils. Allez, laisse-moi tranquille. Modernisons un peu en France. C'est pas ça? Vas-y, laisse-moi tranquille. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Il y a même des gens, ils parlent à leur mère comme si c'était une fille plus petite qu'eux. Wallah, il y a des gens, ils parlent à leur mère, Mais tu deviens fou. Maman, pourquoi t'as fait ça? T'as pas demandé des comptes à ta mère. Fais très attention à ça. Et Sofiane al-Thawri disait que Allah Ta'ala nous a dit Rabbi ighfirli wa li walidayya. Ce doha, tu dois le faire minimum 5 fois par jour. Si tu veux vraiment, anishkurli wa li walidayya. De remercier Allah et remercier les parents. Comment remercier les parents? Le minimum, c'est 5 fois par jour dans tes salawat, tu fais des doha pour eux. Le minimum. Allah, fais leur miséricorde. Allah, pardonne-leur. Comme ils ont été bienfaisants envers moi. Essaye de. Allah, donne-leur le paradis. Donne-leur, accorde-leur. Bénis leur vie, bénis leurs adorations. Fais-leur des doigts si tu les aimes vraiment. Et après qu'elle a coupé la date et qu'elle a donné aux deux enfants, elle a été étonnée. Et elle a raconté ça au prophète. Le prophète, il a dit par cet acte, le paradis lui a été obligatoire. Et l'enfer lui a été interdit. Subhanallah. T'imagines? Les histoires, les frères, il y en a beaucoup. Là, je commence à abréger au maximum parce qu'il faut qu'on termine. Mais ce que vous devez comprendre, les frères, c'est que si ce bas monde, c'est ton soufi, Allah, il va éparpiller ce bas monde devant toi et tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras pas à t'emparer de quelque chose de ce bas monde. Et le jour du jugement, rien non plus. Et si l'au-delà, c'est ton bas monde, Allah fait courir la dunya derrière toi, et c'est pas ma parole. C'est la parole du prophète Hassan qui dit « Man kanat dunya hamma, farraqa Allahu alayhi amra, wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhira niyatuhu, jama'a Allahu lahu amra, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. » Hadith est rapporté par Ibn Majah, et le prophète Hassan nous l'a dit « Laysa al-ghina an kasrat al-arab, innama al-ghina ghina al-nafs. » Al-arab, c'est mata' al-dunya. C'est pas ça le ghina. La vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup de choses de ce bas monde-là. Beaucoup de provisions. Beaucoup de richesses de ce bas monde. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. C'est celle-là, la vraie. Et Ibn al-Qayyim nous disait, il nous dit ici, à propos de la réalité de l'ascétisme, le but de l'ascétisme, c'est pas de renoncer à tous les biens du bas monde. C'est pas de dire le bas monde, ça y est, je me marie pas. Je ne vais pas acheter de voiture. Et il nous a dit que l'appartement, c'est haram d'en acheter. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Le prophète lui-même, il dit, dans le hadith que rapporte Ibn Majah et d'autres, « Arba'a min as-sa'ada. » Quatre choses font partie du bonheur. « Al-zawja as-saliha, la femme pieuse. »« Wal-baytul wasi'a. » Et la maison spacieuse, large. « Wal, écoutez bien, al-jar as-salih, le bon voisin. »« Wal-markabul hani'a, et la bonne monture. » Donc t'as le droit, ça fait partie du bonheur, t'as le droit. Mais ce qu'on veut pas que tu fasses, c'est que tu fasses rentrer ces quatre choses dans ton cœur et que tu fais sortir l'au-delà. Non, c'est l'inverse qu'on veut. La dunya dans ta main et l'au-delà dans le cœur. Quoi que tu aies comme bien, si un jour ça part, c'est pas grave, c'est dans ma main. Je m'en fous. Et alors, la voiture elle est partie, c'est pas grave. L'argent il est parti, c'est pas grave. L'essentiel c'est ça. Mais si je dis oh là là, c'est parti, allez hop, l'au-delà, va-t'en, tu m'as servi à rien. T'as pas compris le message. Et notre prophète sallam était sans contestation le plus grand des ascètes alors qu'il avait 9 femmes. Et Ibn al-Qayyim dit que Sulayman, Daoud, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, Zubayr ibn al-Awam, Uthman ibn Affan étaient tous des ascètes malgré qu'ils avaient beaucoup d'argent. Abdurrahman ibn Auf, le plus riche des compagnons. Sulayman, Daoud, ils ont eu un royaume que personne n'a eu. Mais pas malgré ça, ils étaient ascètes. Ça veut dire quoi, ascètes? Ça veut dire qu'ils ont enlevé la dunya du cœur. C'est compris le message? On n'est pas en train d'interdire d'avoir des biens dans ce bas monde, on est en train d'interdire de les placer ici. Et on rappelle rapidement Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, la vie présente s'en est allée en tournant le dos. Et l'au-delà s'en est allé pour nous rencontrer. Et chacun d'entre eux possède ses enfants. L'au-delà, elle a des enfants, et ce bas monde, il a des enfants. Soyez donc parmi les enfants de l'au-delà, et ne soyez pas parmi les enfants de la vie présente. Car aujourd'hui, on œuvre sans qu'on soit jugé, et demain sera le moment d'être jugé sans pouvoir œuvrer. Et le hadith, il est rapporté par lui-même, Al-Bukhari et Ta'ala. Tu t'imagines? Il dit que le bas monde, il a ses enfants, et l'au-delà, il a ses enfants. Vous voulez faire partie de quelle catégorie? Les enfants du bas monde ou les enfants de l'au-delà? Isa, radiallahu, comment dire, alayhi salam, il disait, traversez-la et ne l'exploitez pas. T'as vu ce qu'il disait sur la dunya? Traverse la dunya, mais ne l'exploite pas. Et il a dit aussi, qui d'entre vous construirait une maison sur une vague? Regarde l'image. Il a fait une image comme si la dunya c'était une vague. Tu peux construire une maison sur une vague? Non. Et si quelqu'un construit une maison sur une vague, on va dire quoi? Il n'est pas normal. Et bien c'est ça l'image qu'il a donnée. Ce bas monde-là, c'est comme une vague. Comment tu peux construire dessus? Construis rien. Prends-toi pas la tête à ça. Prends-toi la tête à l'au-delà. Et quand je te dis prends-toi la tête à l'au-delà, c'est vraiment prends-toi la tête à l'au-delà. Parce qu'aujourd'hui, Allah, on est bien une fois, après pendant 2 semaines, on est mauvais. On est rechargé 3 jours, et pendant 2 semaines, on est déchargé. On est rechargé pendant le mois du Ramadan, juste le jour de l'Aïd, on oublie le Ramadan, on oublie Tarawih, on oublie dans quel... force on était et on plonge vers les péchés. Il y a des gens même arrivés à la fin du Ramadan, ils craquent. Vite là que le Ramadan il se termine. Les compagnons ils pleuraient après la fin du Ramadan. Ils disaient ça y est, c'est fini, on est en prison maintenant. Alors que là c'est notre oxygène. Les hassanat, les shayatin ils sont enchaînés, les portes de l'enfer fermées. C'est une ni'ma. Abdullah ibn Aoun, il a dit, ceux qui vivaient avant nous consacraient dans leur vie présente les surplus qu'ils n'ont pas consacrés à leur dernière demeure. Alors que vous, vous consacrez à votre dernière demeure les surplus que vous n'avez pas consacrés à votre vie présente. Rapidement, comment faire? Quel est le remède pour être quelqu'un d'assept? Comment faire? Qui peut me dire maintenant des remèdes? Quelles sont les solutions? Et je veux que tout le monde participe. Comment faire pour enlever cette dunia du cœur et l'avoir dans la main? J'écoute. Barakallahu fik. La salat, bien sûr. La salat, c'est le réjouissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prunelle de mes yeux, mon réjouissement total, c'était quand je priais. Quoi encore? La bonne compagnie, barakallahu fik. Quoi encore? Ad-du'a. Chérif. Avoir des objectifs, c'est plus important. Tu vis pour quoi? Pour ici ou là-bas? Si tu vis pour ici, voilà, t'as fait ton choix. Mais faudra pas pleurer ce jour-là. Ce jour où tout le monde va courir, tout le monde va dire nefsi, nefsi. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tout le monde va courir, tout le monde. Tu fuis ta mère, ton père, ton frère, tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun s'occupera de son propre affaire. On résume ça en 10 choses. La première chose, c'est regarder la vie présente en voyant comment elle est rapide. Regarde-la comment elle traverse vite fait cette vie présente. Remarque qu'elle est très rapide dans son déclin. Et comment elle provoque des angoisses dans le cœur des êtres humains. Première chose que tu regardes vraiment, c'est que la dunia, elle avance vite. T'as quel âge maintenant? 20 ans. On a dit, si tu vis 60-70, et bah t'as déjà fait presque le tiers de ta vie. Tiers, tu l'as senti? Non, flèche. Et 40 ans, tu vas pas sentir. Flèche, 60, flèche, la tombe. Est-ce que j'ai préparé les bagages ou pas? Deuxième chose, regarder l'au-delà, lui donner beaucoup d'intérêt. Et faire le fait et aussi faire en sorte de pratiquer en ayant dans la tête que le jugement dernier ou la mort sera demain ou aujourd'hui. Comme on disait tout à l'heure, rien que le fait de dire si je mourrais demain, comment je ferais, ça te prend la tête. Eh bien, essaye de tout le temps mettre la mort devant tes yeux et regarde beaucoup l'au-delà en lui donnant de l'intérêt. 3. Multiplie les rappels de la mort. Le prophète il a dit, parlez souvent de la mort. Parlez de ce qui casse les plaisirs. C'est ça qui freine vraiment. On te parle toute la journée de religion. Ça te fait pas ça te fait pas grand-chose. Mais dès qu'on te parle de la mort, on a tiré le frein à main et on est en train de te faire quoi? Un bilan de ce que tu es en train de faire dans ta vie. Là, tu commences à avoir un petit peu peur. Tu te dis, ouais, franchement, là, c'est vrai. Faut que je me réveille. Mes prières ne sont pas réglées. La serre, elle commence à se dire, ouais, jusqu'à quand je vais attendre pour le vol? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que j'attends? Que l'ange de la mort vienne prendre mon âme? Non, aujourd'hui, ce soir, Inch'Allah, je vais le mettre. Et peu importe ce qui va se passer, les épreuves, de toute façon, tu es obligé d'en avoir. Et tu dois les surmonter. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, te facilitera de les surmonter si tu es sincère. Quatrième chose, suivre les cortèges funéraires. Ça, on n'en a pas trop l'occasion, mais wallahi, ça fait quelque chose pour le cœur. Quand tu es au pays, dans ton bled, ou en Arabie Saoudite, tu vas faire un umrah ou un hajj ou un truc, tu vois un cortège, quelqu'un, ça y est, on est en train de le porter. C'est bon, lui, Munkar wa Nakir, ils vont le questionner dans quelques minutes. Ça fait un effet. Cinquième chose, se donner tout entier pour l'au-delà et donner de l'intérêt pour l'adoration d'Allah et passer le clair de son temps à se rappeler d'Allah et à psalmodier le Coran. 6. Favorise les avantages de la religion à ceux de la vie présente. Tu vas faire une chose. Est-ce que ça, c'est bien pour ma religion ou pour ma dunya? Pour ma dunya? Non, moi je veux que ce soit pour la religion. Même si je vais en perdre un morceau pour moi. Par exemple, j'ai de l'argent et j'en ai besoin. Je vois quelqu'un qui en a vraiment encore plus besoin que moi. Il est dans la rue. Moi, j'allais acheter avec, par exemple, je sais pas moi, un MP3. Et bon, au lieu de donner les 30 euros à MP3, je le donne à lui. Et j'avance quoi? Les intérêts de la vie, de l'au-delà, à la vie présente. Donner avec générosité. Quelqu'un aussi qui donne avec générosité, qui dépense et qui n'a pas peur de la pauvreté, celui-là vraiment est là. Enlever la donnée à son cœur. La pauvreté, c'est quoi la pauvreté? C'est rien du tout. C'est la richesse, le danger. La richesse, vraiment, c'est le danger. Et multiplier les aumônes. 8e chose, et celle-là, c'est très très important, c'est délaisser les assemblées des gens de la vie présente et n'assister qu'aux assemblées qui rappellent l'au-delà. Délaisse les assemblées. Aujourd'hui, tu restes avec des gens, ils te parlent de quoi, à part de mode, de télé, d'acteurs et de chanteurs, la dernière chanson, t'as vu ses paroles, t'as vu les instrus, t'as vu l'endroit où il a fait le clip. Mais après, tout ça, ça t'a servi à quelque chose. Délaisse ces assemblées et essaye de te retrouver dans des assemblées comme celle-là. Cherche-les. 9e chose, manger peu, boire peu, dormir peu et rire peu. Ça, ça aide. C'est des choses qui aident. Au lieu de manger jusqu'à que j'arrive plus à bouger, oh, je suis mort. Je peux plus bouger. Eh ben non. Je vais faire comme le prophète Rémi m'a appris. Un tiers. Un tiers de quoi? D'eau, de nourriture et d'oxygène. Barakallahu fik. Aujourd'hui, on laisse pour l'oxygène quelque chose? On laisse, même l'eau, on laisse même pas d'eau. Nous, c'est 3/4 viande. Après le gazeux, et après t'entends des bruits, Allah musta'an. 10. Lire les histoires des ascètes. Ça, c'est très important. Lisez ces histoires-là. Moi, j'ai envie de connaître, moi, les compagnons. Tu vois, ces histoires que tu as écoutées tout à l'heure, ça nous plaît, ça fait plaisir de les entendre. Eh ben, je vais fouiller. Ils sont où, ces livres? Va dans les librairies et demande l'avis des compagnons. D'Ibn al-Jawzi, ou d'un tel. Achète l'avis du prophète, l'avis des prophètes. Et prends exemple sur eux. Wa akhiran. Pour terminer, les frères. Wa alaykoum salam wa barakatou. N'oubliez pas d'essayer toujours de vous rassembler à la mosquée. N'oubliez pas de toujours vous rassembler à la mosquée dans le zikr, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma a'lam wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam wa as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yukhrij ad-dunya min qulubina. Allahumma akhrij ad-dunya min qulubina. Allahumma akhrij ad-dunya min qulubina. Allahumma ij'alha tahta aqdamina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh 'ilmina ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه يا عزيز يا قوي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. الله سبحانه وتعالى.